Place Info.
Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Julie Smul.
Les informés, c'est avec vous. Dans un instant, on parle de quoi ?
Ah bah écoutez, la ministre des Transports, tiens, a-t-elle déraillé ou même dépassé les bornes en partant en vacances pour Noël à Marrakech ? Erreur de com ou populisme à la gomme ? C'est l'une des questions que l'on posera à nos informés dans un instant sur France Info.
A tout de suite Julien Langlais.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
La météo de demain, avec des températures très douces autour de la Méditerranée et au pied des Pyrénées. Côté ciel, des nuages qui vont traverser notre pays d'ouest en est. Prévoyez de faibles pluies en matinée, 20h sur France Info. Alexandre Berthaud, bonsoir.
Bonsoir à tous. Légère amélioration pour le trafic SNCF demain, mais la grève continue, 22e jour de mobilisation. Un TGV sur deux circulera ainsi que 4 TER sur 10 et un Transilien sur 5. Les prévisions font état de 3 Ouigo sur 5 en circulation et un Intercité sur 4. À la RATP aussi, légère amélioration demain. Au lieu de 14, 5 lignes de métro seulement seront complètement à l'arrêt. 9 fonctionneront partiellement. Toutes les prévisions de trafic sur le site de France Info. Jamais Noël n'avait été aussi doux dans le sud de la France. Rendez-vous compte, 21 degrés 2 à Perpignan, alors que le dernier record était de 20 degrés en 1995. Alors dans les Pyrénées-Orientales, on a échangé les flocons de décembre pour des grains de sable de la plage. Au Canet en Roussillon, par exemple, les terrasses des brasseries étaient bondées. Un gérant, Arnaud Lemestre.
Tout le monde veut du soleil, de la chaleur, ils ont envie de se faire dorer la pilule. Tout le monde a envie de ce soleil qui est vraiment agréable. J'ai même pas ouvert un seul parasol, c'est à l'unanimité, personne m'a demandé d'ombre. Le soleil sur la place Méditerranée, c'est notre chiffre d'affaires. Il fait beau, il y a du monde, il y a du vent, il y a personne, il pleut, il y a personne. On est une activité saisonnière, on est en bord de mer, forcément. C'est comme la neige au ski, pour nous le soleil, c'est la rentabilité. C'est tout bénef. À part que c'est un petit peu compliqué pour nous pour gérer la masse salariale. Des hivers où on a un effectif restreint, du coup il faut un peu plus courir. C'est exceptionnel, mais c'est redondant par rapport à la dernière.
Arnaud Lemestre, gérant d'une brasserie au Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Le 25 décembre, deux discours très attendus. Le premier par les fidèles catholiques, le message à la ville et au monde, Urbi et Orbi du pape François. Devant 50 000 personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre, il a appelé à la coexistence pacifique des peuples. Le souverain pontife a notamment réclamé une action de la communauté internationale pour garantir la sécurité en Syrie, où 8 civils ont été tués hier lors de raids aériens russes. Autre discours attendu celui-ci par les Britanniques. La reine Elisabeth II, comme de coutume, s'est adressée à ses sujets aujourd'hui. Elle est revenue sur l'année écoulée, les 75 ans du débarquement, les 50 ans du premier pas sur la Lune. Elle a également salué l'engagement des jeunes générations pour la planète. Aux Philippines, pays majoritairement catholique, Noël gâché par un typhon pour plusieurs milliers de personnes. Ils ont trouvé refuge dans des établissements publics alors que le typhon Fanfan frappait l'archipel. 6 personnes sont portées disparues. Le cadavre d'une femme en partie brûlée découvert dans un parc dans les Alpes-Maritimes. Le corps n'a pas été identifié. Il était en partie dénudé, retrouvé par une femme près d'un étang à Mougins, juste à côté de la technopole Sophia Antipolis. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Cannes. Nouveau coup de théâtre chez Nissan. Le numéro 3 du groupe a annoncé sa prochaine démission. Le constructeur le confirme aujourd'hui. Il va rejoindre un fabricant de moteurs électriques. De quoi raviver les inquiétudes chez l'allié japonais de Renault 3 mois après le départ du directeur général du groupe. Et puis, elle avait composé plusieurs tubes inoubliables. La compositrice Ali Willis est décédée aujourd'hui. Le morceau le plus connu peut-être, c'était le générique de la série Friends. L'américaine avait également coécrit Boogie Wonderland et September, classique du groupe Earth, Wind and Fire. Ali Willis avait 72 ans. 20h03 sur France Info, tout de suite les informés, Julien Langlais.
20h, 21h, France Info, les informés, Julien Langlais.
Bonsoir à toutes et à tous, joyeux Noël et bienvenue dans les informés de Noël sur France Info. La ministre des Transports a-t-elle déraillé ou même dépassé les bornes en partant en vacances pour Noël à Marrakech ? Erreur de com ou populisme à la gomme ? Certains syndicats dénoncent un mauvais message en pleine période de grève dans les transports justement. Quelques jours en famille, totalement joignable et de retour à Paris pour le week-end, répond le cabinet de la ministre. Une ministre d'ailleurs a-t-elle droit à une vie privée ? privée ou doit-elle être privée de vie? C'est l'une des questions que l'on va poser dans un instant à nos informés. Puis sous le sapin de l'émission également, les vacances du président à Brégançon pour préparer entre autres ses vœux aux Français. Puis le message à la ville et au monde du pape, c'était au Vatican. Voilà une partie du sommaire des informés avec nous ce soir. Christophe Gascard, journaliste à France Télévisions, Hélène Pilichowski, journaliste politique, et Bruno Cotresse en direct avec nous par téléphone, politologue et chercheur au CEVIPOF. Bonsoir et bienvenue les informés, c'est parti! Une ministre a-t-elle donc le droit de partir quelques jours en famille pour Noël? En l'occurrence, donc, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dont le court séjour familial à Marrakech a provoqué quelques cris d'orfraie, parfois un peu surfaits. Mais disons qu'en pleine période de grève dans les transports, ça fait causer. Certains syndicats comme Sudrail et son secrétaire fédéral Éric Meyer ne se sont pas privés de critiquer l'attitude de la ministre des Transports et de l'Environnement.
Je ne pense pas que ces vacances vont aider à calmer l'esprit des grévistes qui sont en grève depuis plus de 20 jours. C'est un mauvais message, mais nous on n'est pas surpris. Hein. On voit bien qu'il y a une vraie stratégie du pourrissement à l'œuvre. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas arrêter le conflit, faire circuler les trains, faire circuler les transports. C'est pas la priorité du gouvernement.
Voilà, Éric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonsoir Hélène Pilichowski.
Bonsoir.
Alors, journaliste politique et avocate de la ministre des Transports ce soir.
Oh bah, je dirais pas jusque là, je vais pas comme ça me déclarer avocate, c'est pas exact, c'est pas dans mes fonctions, c'est pas ma formation non plus, mais en tout cas je suis là pour la défendre ce soir.
Et pourquoi donc?
Parce que je trouve insupportable que tout de suite, évidemment, c'est un appât de choix pour les syndicats, en particulier pour Sudrail, dont on connaît cette facilité pour donner des leçons de morale, quand même, ce serait plus intéressant aujourd'hui de leur en donner quelques leçons de morale. Hein, parce que je vois même qu'on fait une allusion aux dépenses écologiques du fait qu'elle ait pris l'avion pour aller à Marrakech, elle n'y est pas allée à la nage.
Et c'est pas justifié
qu'elle soit allée à Marrakech?
Oui, enfin...
Justifier, c'est critiques. Pas ce que je voulais dire, mais ce n'est pas forcément critiquable. Parce que je peux vous dire que, d'abord, premièrement, elle reste à la disposition, comme elle l'a dit, du gouvernement. Bien évidemment, s'il y avait quelque chose d'important ou de très compliqué pour la France, elle reviendrait très vite. Ce n'est que 3 heures d'avion, c'est-à-dire un peu moins que ce qu'il fallait pour traverser Paris hier soir, je peux vous le dire. Je réveillonnais en famille à l'autre bout de Paris et je ne vous dis pas combien de temps ça a pris. Donc, de ce côté-là, Sudrail ferait bien de se taire pour ce qui est de la pollution.
Voilà. D'accord. Christophe Gascard, est-ce que vous, ça vous a un tout petit peu titillé l'oreille quand vous avez entendu cette information?
Alors bonsoir déjà et joyeux Noël effectivement à tous. Disons que ça me paraît un peu classique et normal dans ce genre de contexte. À chaque fois qu'il y a, de toute façon, même quand il n'y a pas de grève, quand il y a un ministre qui part en vacances, ça pose forcément souci. D'autant plus quand c'est la ministre des Transports, vu la grève qu'on a en ce moment. Mais en même temps, le cabinet de la ministre l'a répété, hein, ils estiment qu'il n'y a pas de règle kilométrique d'interdiction de sortie du territoire et qu'en gros, de toute façon, un ministre, qu'il soit à Paris ou ailleurs, il a les dossiers entre les mains et il peut continuer à travailler. Donc moi, j'ai vraiment suivi sur France Info, effectivement, ces grèves depuis le 5 décembre. Je suis souvent effectivement également à Matignon quand il y a des rencontres avec les syndicats. De ce que j'ai cru comprendre quand même, c'est que la porte n'était pas fermée, que Matignon avait vraiment souhaité effectivement de garder le contact et que il n'y a pas forcément eu non plus une grande velléité des syndicats de garder le contact avec le pouvoir en place. Donc bon voilà, c'est un peu compliqué, mais j'allais dire c'est un peu normal quand chacun est dans son rôle.
Alors c'est une question d'image, l'image c'est quand même important en politique, Bruno Cotresse. Bonsoir, je vous salue.
Bonsoir, et joyeux Noël à tous d'abord.
Merci.
Joyeux Noël à vous, Bruno.
Bruno Cotresse, c'est important l'image en politique quand même qu'on renvoie.
Oui, alors c'est ça que je voulais dire. En fait, bien sûr, il ne faut pas surexagérer. Bien sûr, on se doute bien que le fait que la ministre, d'ailleurs son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebbari, lui, il est bien là à Paris. Donc on se doute bien que c'est pas ça qui est essentiel. C'est pas le fait qu'elle est éloignée de Paris à 3 heures d'avion ou à 2 heures de taxi, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte d'hypersensibilité sur toutes ces questions. De manière beaucoup plus générale, même si on ne parlait pas de la question des retraites, fait, c'est vrai qu'on est dans un contexte de très grande sensibilité, un an après la crise des Gilets jaunes, où il faut que les membres du gouvernement montrent à quel point ils sont au contact, ils sont proches des Français, donc personne ne peut faire le reproche à la ministre d'aller prendre des vacances privées, payées sur ses deniers personnels avec sa famille, évidemment. Mais on a ce contexte d'une très grande sensibilité, et par ailleurs, comme vous le dites, en politique, souvent, c'est pas vraiment ce qu'on fait qui est important, mais c'est l'image que ça renvoie ou que ça donne, la question du symbole. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut dire que c'est peut-être pas la meilleure opportunité pour la ministre d'aller prendre quelques jours de repos, et que peut-être ça aurait été mieux vu en termes de communication d'aller prendre ce repos dans 15 jours ou 3 semaines, une fois que le projet de loi serait par exemple déposé par le gouvernement. Mais il faut pas non plus surexagérer l'importance. Nous sommes dans une bataille d'opinion et dans une bataille de communication aussi, où chacun essaye de marquer un but ou de marquer un point.
Et c'est visiblement ce qu'ont essayé de faire certains avec cette polémique autour du déplacement donc de la ministre à Marrakech pour ses fêtes de Noël. On poursuit ce débat dans Les Informés dans un instant. Il est d'abord l'heure du rappel de l'info. Il est 20h10 et on retrouve Boris Allier.
Des trains encore au ralenti demain au 22e jour de grève à la SNCF. Légère amélioration tout de même pour les TGV avec un train sur deux. Comptez 4 TER sur 10. La SNCF qui précise que les trains ouverts à la réservation jusqu'à dimanche sont garantis de circuler. Des perturbations également à prévoir dans le métro parisien. 5 lignes resteront fermées demain. Le corps partiellement calciné d'une femme retrouvée dans un parc dans les Alpes-Maritimes. C'était dans la commune de Mougins, près de la technopole de Sofia Antipolis. Le procureur de la République de Grasse évoque le début d'une enquête complexe. Des funérailles dignes d'un chef d'État, le puissant général Ahmed Gaït Salah a été enterré aujourd'hui à Alger. Le chef d'État-major avait mené la transition après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Contesté dans la rue par les manifestants, mais salué par les membres de l'armée, quelques milliers d'Algériens se sont rassemblés dans la capitale pour lui rendre hommage. Et puis la reine d'Angleterre le reconnaît, l'année 2019 a été semée d'embûches. Dans sa traditionnelle allocution de Noël, Elisabeth II appelle les Britanniques à surmonter leur division. La souveraine qui salue également le sens du devoir des jeunes générations face à la crise climatique.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Julien Lenglet.
Et retour avec nos informés sur ce petit cadeau d'Elisabeth Borne au pied du sapin gouvernemental, ce petit séjour familial pour Noël à Marrakech. Pour être franc, un rare quand même sont les politiques de premier plan à monter au créneau en ce jour de Noël pour attaquer la ministre frontalement. Le député Les Républicains de Paris, Claude Goisguen, s'y est essayé ce matin sur France Info. On l'écoute.
En tout cas, c'est pas ce qu'avait demandé le président de la République. J'avais cru comprendre qu'il avait demandé à ses ministres de rester tout près. C'est vrai que Marrakech n'est pas si loin en avion, mais très franchement, c'est un peu choquant quand même de voir un ministre important du gouvernement qui va prendre des petites vacances dorées à Marrakech.
Bon, on a connu des attaques plus virulentes.
Et on a aussi connu des élus républicains plus brillants que ça.
Alors, oui, par exemple.
Parce que, oh bah oui, non, mais franchement, parce que s'abaisser maintenant à suivre le délégué de l'UNSA pour dire la même chose et d'ailleurs de manière plus édulcorée, c'est-à-dire vraiment pas.
C'est un peu mou.
C'est un peu mou. Franchement, monsieur Goisguen, non, vous avez déjà fait mieux. Non, franchement. Non, mais c'est, on peut en plaisanter parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête.
Voilà.
On a l'humeur joyeuse. Mais franchement, en fait, c'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est commun aujourd'hui. C'est commun. Il l'a très bien dit, Bruno Cotterêts. On est dans une société où l'image, le symbole est surtout dans ce sens-là. Vous vous rendez compte, François Mitterrand, il a vécu des belles années quand même. Quand il pouvait aller à Soin, au bord d'une île, à l'Aul Katarak, le plus bel endroit.
Jacques Chirac était loin aussi. Hein,
très loin. Des plus beaux endroits du monde. Il pouvait faire comme il voulait, y compris avec sa compagne, etc. Et personne ne disait rien.
Nous n'étions pas à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'info 24h/24. Et c'est ça aussi qui a vraiment changé le paradigme.
Est-ce qu'on doit plier le genou à terre et supporter tout ça et se dire est-ce que la ministre, elle avait peut-être de la famille, elle a peut-être des grands-enfants à rejoindre là-bas, je ne sais pas. Mais j'imagine, elle n'est pas forcément allée toute seule dans un hôtel, partir 3 jours, je crois pas.
Bruno Cotterêts, je vous entendais réagir, c'est l'époque qui veut ça.
Oui, moi ce que j'ai trouvé un peu gênant dans la déclaration de Claude Goisguen, c'est en fait l'adjectif qu'il a utilisé, vacances dorées.
Exactement.
Alors certes, à Marrakech, il fait chaud, le soleil doit être doux en ce moment, je n'ai pas de doute là-dessus, mais ça laisse supposer quelqu'un qui va aller mener grand train à l'autre l'autre côté de la Méditerranée. Je suis pas du tout sûr que ça soit le cas de la ministre, donc on voit qu'effectivement, c'est un exercice extrêmement risqué d'aller venir contester que la ministre puisse partir quelques jours en vacances. Donc c'est vrai que c'est un peu ça qui est gênant dans la déclaration de Claude Goasguel.
On peut s'étonner, Christophe Gascard, vous le disiez, vous étiez à Matignon à plusieurs reprises, ils connaissent les ministres, les membres du gouvernement, toutes ces règles imposées justement par les réseaux sociaux dont on vient de parler, et ils tombent encore finalement parfois dans des panneaux qui semblent assez gros quand même.
Oui, des panneaux, oui et non, parce que moi j'ai du mal à imaginer que la ministre de la Transition écologique et solidaire s'est envolée au Maroc comme ça, sans avertir à la fois le Premier ministre et surtout sans avertir le Président. Ouais. Donc c'est forcément avec l'aval de l'exécutif. Je pense qu'aussi c'est aussi une manière pour l'exécutif de dire aux grévistes, ou en tout cas à ceux qui s'opposent à cette réforme, de dire, bien, nous on a aussi notre agenda, et en l'occurrence si vous êtes en vacances, on a aussi le droit d'être en vacances, et on a nos dossiers sous la main. De la même manière, et on en parlera tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron, lui aussi, il prend quelques jours de vacances et il descend dans le sud, au fort de Brégançon. Donc certes, c'est une décision. De ce que j'ai cru comprendre, et donc, je me suis un peu renseigné, elle aurait toutefois décalé et raccourci un tout petit peu ses vacances, que d'accord, les vacances étaient normalement au moins prévues pour une semaine, voire 10 jours, et ça a été raccourci à seulement 3 ou 4 jours.
Donc finalement, il s'attendait en gros un tout petit peu à ce début.
C'est,
de
à mon avis, c'est totalement assumé.
Ouais, c'est assumé.
Je trouve que c'est malhonnête de la part de. Enfin, on n'en a pas entendu beaucoup encore. Hein. Il y a surtout ce membre de l'UNSA là qui s'est exprimé de manière.
Sudrail.
Excusez-moi, Sudrail, bien sûr. Oui, voilà, absolument. Mais je pense que effectivement, Elisabeth Borne, elle travaille entre. Probablement autour de 15 heures par jour. Elle n'a pas démérité depuis le début du conflit. Elle est très présente. C'est une femme qui a l'air plutôt sérieuse. Elle n'a pas l'air particulièrement légère ni d'un comportement insouciant. C'est pas du tout son style. C'est une énorme travail. Une de ses principales qualités qui est toujours mise en avant par ceux qui l'ont rencontrée, par ceux qui ont eu affaire à elle dans les négociations, etc. Disant qu'elle travaille ses dossiers énormément. Donc elle doit travailler, à mon sens, environ 15 heures par jour. Hein. Et alors qu'à la RATP, je le rappellerai, puisque ce monsieur de Sud était de la RATP. À la RATP, c'est entre 25 et 30 heures par semaine. Donc voilà. Donc elle mérite trois jours de congé. Et dire que en fait le gouvernement à cette occasion-là que le gouvernement mais que le gouvernement joue le pourrissement, c'est ceux qui refusent de négocier quand on les y invite. C'est ça aussi le pourrissement, bien sûr.
Non, alors, mais après chacun effectivement Christophe. Dans son rôle, c'est-à-dire que c'est les syndicalistes qui effectivement s'opposent à cette réforme. On peut à la fois les comprendre en disant bah, nous on est là, on continue à faire la grève et la ministre part en vacances, et en même temps la ministre peut aussi dire bah, moi je travaille et j'avais besoin de vacances et je les prends.
Oui, pas. Alors par ailleurs, je trouve que par ailleurs il faut pas effectivement laisser entendre que les ministres partent, tirent le rideau, ne s'occupent plus. Évidemment, tout le monde se doute bien que on continue à beaucoup se contacter, se téléphoner entre l'exécutif, les ministres, les syndicats, les différents partenaires sociaux. Certes, le gouvernement et le Premier ministre a fixé des rendez-vous très vite, hein, à la sortie de Noël et pour les premiers jours du mois de janvier, mais on se doute bien qu'entre les deux, il y a beaucoup de la concertation continue et que les ministres ne tirent pas un trait ou ne tirent pas le rideau pendant quelques jours sur leurs activités, sur leurs contacts avec les syndicats.
N'est-ce pas aussi parce que les Français aiment bien tirer un petit peu sur les politiques, c'est un petit sport national aussi, c'est l'occasion.
Ah, c'est certain que, vous savez, nous réalisons au Cevipof toutes les années notre enquête sur le baromètre de la confiance politique et quelle perception les Français ont des hommes et femmes politiques. Cette année, nous le publierons vers la fin du mois de janvier, début du mois de février. Moi, je m'attends à retrouver, un peu comme toutes les années, une perception par les Français du personnel politique extrêmement négative, ça c'est certain.
Crédit dans la parole publique.
C'est un manque de confiance et aussi le sentiment par beaucoup de Français que les hommes et femmes politiques ne vivent pas dans le même monde qu'eux et vivent un peu dans une sorte de bulles, pas forcément d'ailleurs du point de vue de leurs moyens, de leur train de vie, mais plutôt dans une bulle où ils sont dans leur système de décision à eux et où ils ne se soucieraient pas assez des préoccupations des Français de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est effectivement un grand classique de la perception des hommes et femmes politiques, distants, pas à l'écoute et vivant dans leur bulle.
Christophe Gascard.
Oui, c'est ça qui est assez intéressant parce que finalement, on a demandé à avoir un renouvellement politique et l'avenue, l'élection...
C'était la promesse.
C'était cette promesse et il y a un renouvellement parce qu'Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui vient de la société civile, donc elle connaît, elle a travaillé, c'est pas quelqu'un qui a fait toute sa carrière politique comme certains l'ont fait en rentrant à l'ENA et en faisant 30 ans de carrière politique, donc c'est quelqu'un de nouveau et en même temps, on demande les Français, et ça sera toujours, je pense, le problème aussi, c'est qu'ils souhaitent à la fois des gens normaux comme eux et en même temps ministres qui travaillent tout le temps, qui partent pas en vacances, c'est une sorte d'équation qui est toujours...
Est-ce que quand on est ministre, on peut rester normal et avoir une vie normale?
Non. Avoir quelques jours de vacances, ça me paraît pas totalement incompatible. Oui,
visiblement, ça pose problème.
Oui, et puis Bruno le disait tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on est dans l'ère de la technologie, on a Internet, on a des réseaux sociaux et on a surtout des téléphones, donc la concertation, elle continue.
Et je suis d'ailleurs étonné, effectivement, il y a une défiance terrible à l'égard du personnel politique. Il n'y a pas qu'en France, parce que Bruno Cotrasi, en France, c'est ce qu'on constate un peu partout, avec la montée du populisme, c'est ça. Hein. En fait, c'est de se dire, ils sont d'un autre monde par rapport à nous. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'avec le renouvellement qui a suivi l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de gens de la société civile qui sont arrivés au gouvernement et ce sont eux qui sont les plus critiqués parce que soit ils ont gagné un peu d'argent quand ils étaient dans le privé, alors ça c'est un péché franchement qui impardonnable. Non mais il y a eu pour
la relation des Français avec l'argent et aussi des fois parfois un petit peu compliqué.
Non mais comme Nicole Pénicaud etc. Par exemple Muriel Pénicaud, pardon. Et c'est elle qui a été tout de suite attaquée pour ces raisons-là. Enfin, ça, constamment, c'est ça aussi. Donc, c'est pas tellement
La suspicion généralisée.
Il y a plus de suspicion que de défiance par rapport à leur travail.
On poursuit ce débat avec nos informés, avec Christophe Gascard, Hélène Pilichowski, avec Bruno Cotrès dans un instant. D'abord, le rappel de l'info. Il est 20h20. On retrouve Boris Allier.
Les aéroports seront-ils eux aussi touchés par la grève? La perspective s'éloigne. 4 syndicats d'hôtesses et de stewards suspendent leur préavis qui avait été déposé pour le 3 janvier. Ils assurent avoir obtenu des concessions de la part du gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. Le syndicat de pilotes SNPL, lui, attend des engagements écrits pour lever son préavis. La messe de Noël s'est mal terminée à Carlepont dans l'Oise. Une vingtaine de personnes ont dû être hospitalisées après des intoxications au monoxyde de carbone. 19 étaient en urgence relative, 2 plus sévèrement touchés. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cette intoxication. La guerre en Syrie, le sort des migrants, les crises sociales et politiques en Amérique du Sud. Le pape François a délivré un message de paix au cours de son traditionnel discours Urbi et Orbi, allocution devant près de 50 000 personnes réunies place Saint-Pierre au Vatican. Le souverain pontife qui appelle notamment à garantir la sécurité au Moyen-Orient. Et puis aux Philippines, des dizaines de milliers de personnes obligées de quitter leur logement. Un typhon balaye le centre de l'archipel. Il a déjà fait de nombreux dégâts avec des maisons détruites et des villages inondés. 6 personnes sont portées disparues.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Julien Lenglet.
Après Elisabeth Borne, dont le voyage familial a perturbé quelque peu le Noël gouvernemental, on va parler du président de la République qui part pour quelques jours, qui est même arrivé au fort de Brégançon, à moins que vous n'ayez encore un mot à dire sur la ministre des Transports et son voyage à Marrakech, Hélène Pilichowski.
Il me semble qu'on a fait
le tour de la question,
même si on a élargi ça au débat politique, mais enfin quand même. Non.
Et on pourrait en parler pendant des heures, parce que les vacances des ministres, c'est souvent...
Sujet...
qui revient très souvent.
Oui, la marronnier dans notre profession.
Oui, on aura un peu la même chose.
On peut appeler ça Bruno Cotrès, on a fait le tour.
Oui, on a fait le tour, mais effectivement, on aura droit cet été, sans aucun doute, un peu à la même séquence autour des vacances estivales.
C'est le contexte social qui provoque ça, ou le contexte du moment, ou c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu cette défiance généralisée.
Oui, c'est certain quand même, on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une très grande sensibilité de l'opinion aujourd'hui à toutes ces questions. Nous sommes dans un climat social qui est quand même très très difficile. Il faut quand même voir les choses en face. Il y a un an, nous avons traversé cette immense crise crise sociale, démocratique, et on n'en est toujours pas remis, hein, me semble-t-il. On voit qu'un an après, on est toujours quand même dans quelque chose qui est compliqué, qui est difficile sur le front social. Donc effectivement, il y a là un climat de l'opinion qui est à la fois un peu anxiogène, difficile, où on a le sentiment qu'il y a des réformes qui arrivent, on les comprend pas forcément très bien, on n'en voit pas bien les tenants et aboutissants. Donc oui, il y a un climat de l'opinion qui normalement n'est pas très 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 propice à ce que nos ministres puissent passer le message qu'ils s'en iraient ailleurs. Mais encore une fois, c'est très largement une fausse polémique.
Hein. Ouais, l'opinion à l'épiderme un peu plus sensible que d'habitude. Hélène Pilichowski, un mot.
Bien sûr qu'on est dans un climat social extrêmement tendu.
Post-gilets jaunes.
Enfin, déjà, la crise des gilets jaunes en était effectivement une expression de ce mauvais climat social, effectivement. Mais est-ce qu'il faut pour autant attiser, si vous voulez, ce mauvais climat en rajoutant un débat d'importance sur la question des 3 jours que passe la ministre des Transports à Marrakech? Enfin, c'est assez ridicule. Je veux dire, c'est quand même pas à l'échelle des difficultés du pays.
Ouais, Christophe. Mais
elle sera pas la première, en tout cas, à être visée. Hein. Si on regarde dans le rétroviseur, il y a quand même d'autres politiques qui ont été visées. Mais tout le temps pendant les vacances, et si on parle de son homologue, c'était en 2010, il y avait le séjour qui était un peu écologique aux Maldives. Hein. 2010, c'était Cécile Duflot. On s'en souvient à l'époque, elle avait dit, aux Maldives, on peut pas y aller en pédalo. Et donc, à chaque fois, on sent bien, les ministres
c'est plus
sont
loin,
un peu
c'est
obligés
plus loin,
de se justifier.
Vous êtes allé le chercher, je m'en souvenais pas de
Il y en a beaucoup.
J'ai regardé,
et il y en a beaucoup. Il y avait également François Copé, hein, qui avait été vilipendé. Jean-François Copé, parce qu'il avait des vacances payées par Ziad de Takieddine et
forcément dans la piscine, oui, c'est
oui,
vrai
oui, qu'il y a eu mais en fait, photo des centaines de fois.
Ça, sincèrement, on pourrait écrire un bouquin sur les ministres qui partent en vacances, parce qu'il y a également, moi je m'en souviens, parce que je travaillais à ce moment-là, il y avait un ministre au moment de la canicule.
Oui, ça c'est Jean-François Mattei, ça par contre.
Et ça, c'est...
Il était dans son jardin à Marseille.
Oui, voilà. Et là encore, c'était une histoire de communication, parce que finalement, il aurait été dans un bureau avec une cravate et avec des dossiers devant lui. Ça aurait pu être la même chose.
Sous les pains, en bras de chemise, avec tous les morts.
La communication.
Oui, mais avec tous les morts qu'il y avait eu cet été-là, c'était peut-être là un peu différent. Bruno Cotterêts, je ne sais pas votre avis là-dessus, c'était un peu différent.
Mais il était en polo Lacoste.
C'était même totalement différent, parce que rappelons-nous quand même l'ampleur l'ampleur que ça a prise, le nombre de personnes âgées, en particulier décédées. Là, on était, le ministre de la Santé, effectivement, se le rappelle, en polo Lacoste, depuis son jardin. Donc là, effectivement, c'est autre chose. Là, maintenant, il s'agit de quelque chose qui est sans comparaison.
Voilà, c'est vrai.
La ministre sera au retour, tout le monde le sait, à son bureau d'ici quelques jours, peut-être quelques heures. Ça n'est pas ça le fond du dossier et du problème, hein, sur la question de la réforme des retraites.
Ouais, ça se trouve, elle va rentrer plus vite que prévu, d'ailleurs, en France. On va évoquer d'ici à 20h30, on va commencer à parler donc du coup du président de la République qui part à Brégançon, qui est arrivé, du coup, bien, on l'a presque oublié, mais c'est peut-être un moment important pour le chef de l'État, Hélène Pilichowski, pour préparer les vœux aux Français, peut-être très attendus, plus attendus que d'habitude à cause de cette crise.
Je vous fais remarquer, observer que le président Macron prend le soin de rester en France et d'aller dans la maison, la propriété qui est réservée au chef d'État. Bon, et je vous
résidence
rappelle aussi
officielle de la République.
Résidence de la République. Et je vous rappelle que Jacques Chirac, lui, allait régulièrement, en particulier pendant les vacances de Noël, au Maroc,
lui aussi.
Hein, il allait à Ouarzazate, je crois, voilà. Et ainsi que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui aimait beaucoup être l'invité du roi du Maroc. Ça commençait déjà à déplaire à l'opinion, ça c'est clair. Bon, pour ce qui concerne le travail du président de la République, on lui connaît beaucoup de défauts, tout le monde les dénonce, mais c'est aussi quand même un grand travailleur. Donc, il est allé, comme on sait, il a fait un voyage en Afrique, bien sûr, au Sahel. Bon, et maintenant, il est allé effectivement se reposer. Moi, je trouve ça très sain. Il le fait de manière naturel, sans le moindre éclat, très bien.
Ça
et
bon.
Donc, voilà, il a besoin, il se concentre pour préparer sa riposte. Il était temps quand même, parce qu'on attend beaucoup le président de la République sur cette crise terrible. Je pense qu'il a voulu laisser... Bon, d'abord, il a envoyé son premier ministre au front, c'est clair. Il lui a confié cette tâche immense qui consiste à négocier cette réforme.
C'est en même temps son rôle au premier ministre.
C'est son rôle, mais c'est vrai que parfois on disait, mais qu'est-ce on attend le président. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne prend pas la parole? C'est à lui un petit peu. On est à un stade extrêmement difficile du conflit, ce qui est vrai. Toute la région parisienne est bloquée. Il y avait des choses très, très graves. Les dépôts de carburant qui étaient menacés. Enfin, vraiment, on arrivait à un stade. Donc, moi, je trouve que, après tout, il a eu raison parce qu'il va laisser un peu décanter les choses et prendre du recul pour pouvoir faire déjà un pré-bilan et dire ce qu'il en pense et comment on peut en sortir. L'heure est venue. Parce que s'il était arrivé trop tôt, il l'aurait empêché, tout ça, ce débat, ces exacerbations. Donc je pense que c'est pas mal, mais c'est très compliqué pour lui.
Alors, que doit dire le chef de l'État? Quelle attitude doit-il adopter? On poursuit ce débat dans Les Informés. Christophe Gascard, Hélène Pilichowski, Bruno Cotterès avec nous dans la deuxième partie des Informés. C'est dans un instant, juste après l'info qui arrive, l'info de 20h30.
Politique, culture, économie, sport, international. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Prévoyez un temps globalement gris demain matin avec une perturbation essentiellement nuageuse touchant une grande partie ouest du pays. Des pluies faibles seront observées entre la Normandie et l'Île-de-France. Les brouillards seront une nouvelle fois présents dans le sud-ouest, mais aussi entre le Lyonnais et le Val-de-Saône et du côté de la plaine d'Alsace. Seules les régions proches de la Méditerranée et le massif alpin conserveront un bon ensoleillement. L'après-midi, nos pluies vont se décaler vers la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. À l'arrière, le ciel restera chargé dans une atmosphère ventilée. Le soleil résistera dans le sud-est ainsi qu'en Corse. Et puis côté température, les minimales seront faiblement négatives dans le nord-est, comptez moins 1 degré à Mulhouse et 0 à Nancy et Metz. Les maximales évolueront entre 8 et 19 degrés, avec 8 degrés à Nancy, Dijon et Besançon, 9 à Lyon et Lille, 11 dans la capitale, 12 à Bourges et Limoges, 13 à Brest. Prévoyez 15 à Bordeaux et Toulouse, 16 à Nice, 17 à Toulon et 19 à Perpignan.
Merci Jean-Pierre Hameau et merci à vous d'écouter France Info. Il est 20h30. L'info avec Alexandre Berthaud.
C'est un message de paix que le pape François a délivré ce midi lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Plus de 50 000 pèlerins étaient réunis au Vatican. Le pape a dénoncé les agissements de groupes extrémistes en Afrique et a appelé à la paix, notamment en Syrie et au Liban. Il a également pris la défense des migrants victimes, selon lui, de l'injustice.
C'est l'injustice qui les oblige à traverser des déserts et des mers transformés en cimetières. C'est l'injustice qui les contraint à subir des abus innommables, l'esclavage de toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains. C'est l'injustice qui les refoule des lieux où ils pourraient avoir l'espérance d'une vie digne et leur fait trouver des murs d'indifférence.
Le pape François, autre discours attendu en ce jour de Noël, celui de la reine Elisabeth II. Elle a félicité les jeunes générations et leur engagement pour le climat. Elle a prononcé aujourd'hui son message de Noël au château de Windsor. En tirant le bilan de 2019, la reine a parlé d'une année difficile pour la royauté, marquée notamment par son hospitalisation, mais aussi par l'accident de voiture de son mari Charles. 21 personnes hospitalisées après une intoxication au monoxyde de carbone dans une église dans l'Oise, à Carlepont. Les secours ont été sollicités pendant la messe de Noël hier soir, car plusieurs personnes se plaignaient de maux de tête. La cause de la pollution n'a pas encore été identifiée. Une enquête a été ouverte par le parquet de Compiègne. Légère amélioration demain sur le front de la grève, mais la mobilisation des cheminots se poursuit. Sur les 16 lignes de métro, 2 fonctionneront normalement, 9 partiellement et 5 seront fermées. La RATP annonce la moitié des RER A en circulation et un tiers des RER B au niveau de la SNCF. Ça s'améliore notamment pour les TGV. 1 sur 2 circulera demain, ainsi que 4 TER sur 10. Comptez également un Transilien sur 5 et un intercité sur 4. 4 syndicats d'hôtesses et de stewards ont annoncé ce matin la suspension de leur préavis de grève. Ils ont été rassurés par leur discussion avec le gouvernement. Seuls les professionnels nés après 1987 seront concernés par la réforme des retraites et la remontée d'âge de départ se fera progressivement pour atteindre 60 ans. Cet âge, il est de 55 ans aujourd'hui. En Algérie, la dépouille du général Ahmed Gaïd Salah a été exposée toute la matinée au palais du peuple avant un défilé. Décédé lundi à 79 ans, il a eu droit à des funérailles dignes d'un chef d'État. Il s'était imposé ces derniers mois comme un gardien du système face au mouvement populaire et à la contestation qui secoue l'Algérie depuis plusieurs mois. Le Burkina Faso était en deuil national aujourd'hui, au lendemain de la pire attaque djihadiste depuis 5 ans dans le pays. 35 civils, dont 31 femmes, sont morts lors d'une attaque armée près de la frontière malienne. Selon l'état-major, la riposte a permis de tuer 80 djihadistes. 20h33 sur France Info, c'est le retour des informés avec Julien Langlais.
20h, 21h, France Info, les informés, Julien Langlais.
Les informés de Noël, deuxième partie avec Hélène Pilichowski, journaliste politique, Christophe Gascard, journaliste à France Télévisions, et Bruno Cotterès en direct avec nous par téléphone, politologue, chercheur au CEVIPOF. On évoque depuis tout à l'heure cette pause pour le chef de l'État du côté du Var, au fort de Brégançon, qui doit préparer ses vœux aux Français. Un chef d'État très attendu, finalement, tout le monde est encore fixé sur sa personne, même si Hélène Pilichowski le disait juste avant l'info, que c'était le Premier ministre qui était en première ligne. Bruno Cotterès, c'est bien le chef de l'État qui est attendu au tournant. Hein.
C'est le chef de l'État, évidemment, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison évidente, cette réforme, c'est une réforme du cœur du projet d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout périphérique, c'est le cœur du projet d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire consistant à montrer qu'il a une capacité à réformer le modèle social français, mais à le réformer d'une manière qui, d'après Emmanuel Macron, donne de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, et donne davantage de possibilités aux Français. Le cœur du projet d'Emmanuel Macron, c'est de dire que le système qui s'est mis en place après la Deuxième Guerre mondiale a abouti à des formes de rigidité, de nouvelles inégalités, que lui, il est là pour les déverrouiller, pour les débloquer. Ça, on est vraiment au cœur du projet d'Emmanuel Macron, donc c'est pour ça que sa parole sur ce projet est aussi importante, car c'est un projet Macron et pas du tout un projet Édouard Philippe, c'est la grande différence avec 95. Et puis, une autre raison qui me semble tout à fait évidente, eh bien, Emmanuel Macron aujourd'hui, il doit quand même nous redonner des éléments de cadrage. On ne sait plus très très bien où est-ce que l'on va avec cette réforme des retraites. On voit que se multiplient les exceptions, que se multiplient les cas particuliers, qu'on n'a plus de régime spécial, mais que chaque corporation, chaque catégorie est en train de négocier. Donc il faut que le chef de l'État redonne du sens et redonne une perspective générale.
Que doit dire le chef de l'État lors de ses vœux aux Français, Christophe Gascard? Donnez-lui des conseils.
Oh là là,
je plaisante bien sûr.
C'est toujours compliqué les vœux du 31, parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, en fait, ceux qui adhèrent à la politique d'Emmanuel Macron vont le trouver formidable et les autres vont le trouver très mauvais. Forcément, je pense que les 4 jours...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'on n'en attend rien, en fait, c'est ça?
Moi, honnêtement, je pense pas que les vœux du 31 changent une
politique. Soit décisif.
Non. Dans les sondages, en général, on regarde les vœux du 31 avec les gamins qui sont autour, ça fait beaucoup de bruit, on est rarement hyper attentif.
Faut
être assez lucide. Enfin, moi, je pense que les vœux du 31 ne changent rien. Je pense que on attend beaucoup plus le président quand il va parler à un moment où on l'attend pas. Là, le 31, c'est le passage obligé. Donc, de toute façon, il va nous souhaiter une bonne année, ce qui est plutôt normal. Effectivement, il y a eu une année compliquée. L'année d'avant était compliquée. On parlait de aucune prise de parole. Hein, n'est prévue avant ses vœux du 31, puisqu'il est attendu. Néanmoins, c'est important de le dire. Emmanuel Macron est sorti de son silence il y a quelques jours. Donc samedi, puisqu'il a parlé à Abidjan, et on ne l'avait pas entendu depuis longtemps, il a quand même dit qu'il était bon de savoir faire une trêve, et il a appelé les grévistes à l'esprit de responsabilité. Mmh. Ce qui était quand même une manière aussi, alors que normalement, quand il est à l'étranger, on ne parle pas de politique nationale.
C'était difficile de ne pas être rattrapé par le sujet, quand même.
Mais en tout cas, il s'est un peu exprimé là-dessus, et il a pas forcément été entendu, hein, puisqu'on le voit, les grèves continuent, et aujourd'hui elles étaient assez fortes encore à Paris. Moi, ce que j'attends pas forcément grand-chose du 31, même si effectivement il va dérouler, et Bruno l'expliquait très bien, hein, c'est le cœur de son mandat. S'il ne réussit pas cette réforme des retraites, c'est très compliqué pour lui.
C'est fini pour le quinquennat.
C'est compliqué. Donc il va maintenir le cap, et je pense qu'il demande à tous ses ministres, et Édouard Philippe en tête, à maintenir le cap.
Ça sert à rien les vœux du 31, Hélène Pilichowski?
C'est vrai que c'est un exercice imposé, comme ça vient d'être dit. En général, c'est l'occasion de critiquer le président de la République ou de dire qu'il n'a pas dit
qu'il est formidable.
Ou qu'il est formidable. Ça, c'est beaucoup plus rare, en fait.
C'est le service après-vente de la majorité, voilà. En général.
En général, la réponse habituelle, à peu près générale, c'est on n'a rien appris. On n'a rien appris, il n'a rien dit. C'est plutôt ça. Parfois, c'est plus méchant.
Et pourtant, oui. François Hollande a déjà fait des annonces, puisque vous parlez des vœux du 31, à l'occasion des vœux du 31, notamment son plan d'aide aux entreprises.
Exactement.
Si je me souviens bien.
Le fameux CICE, il avait baptisé ça le pacte de responsabilité.
Il me semble que c'était de mémoire le 31 décembre.
Il a souvent recité son pacte de responsabilité. Personne ne savait exactement ce que ça voulait dire. D'ailleurs, il y avait un défaut de communication et il l'a payé assez cher, c'est vrai. Bon, là, pour le président de la République, alors, face à cet exercice imposé, il faut quand même reconnaître qu'il est dans une situation extrêmement difficile et critique, même on peut dire critique, parce qu'on attend tout, le pays est vraiment en difficulté. Et en plus, ce qui est extrêmement compliqué dans cette affaire de projet de retraite, c'est que c'est un projet qui se veut égalitaire, universel, et qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait des dizaines de cas particuliers. Donc comment sortir du particulier pour aller vers l'universel, c'est ça qui est très très difficile, parce qu'il avait dit ça va être égalitaire, la même chose pour tout le monde, un euro cotisé, un point gagné, etc. Formidable, tout le monde a applaudi, on dit enfin, fini les régimes spéciaux, vous savez comment sont les Français.
C'est-à-dire une base identique de ce que je comprends, et ensuite des ajustements.
En une intervention télévisée pour le 31 décembre, il ne peut pas répondre à l'inquiétude des Français. Parce qu'on dit, s'il trace la perspective, bien sûr, il va redire ce qu'il a déjà dit à maintes reprises, je veux un système plus juste, c'est un projet de justice sociale.
Et puis ce n'est pas forcément le lieu le 31 décembre. En général, on fait un bilan un peu de l'année et on donne les perspectives.
Donc il ne peut pas, il va dire qu'il maintient. Alors ça va être peut-être une confirmation de ce qu'on attend, mais importante, parce que c'est de savoir, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'il va lâcher? Ça, c'est quand même la question aujourd'hui à 100 euros hein, pour le devenir du quinquennat. C'est vrai. Alors évidemment, s'il maintient, on sait très bien qu'il va faire plaisir à son électorat de droite, qui attend ça quand même, malgré tout, même si les Républicains sont là pour critiquer, mais enfin, ils seront quand même là, ça va les gêner, même si, parce que ça va les gêner politiquement.
Ils sont gênés un peu depuis le début de cette réforme.
Politiquement parlant,
hein,
ça va les gêner. Et par rapport à l'électorat de gauche, qui avait voté pour lui quand même pour la présidentielle, ça va être aussi compliqué. Il va peut-être se sentir un peu désavoué.
Bon, va-t-il tenir? Va-t-il lâcher? C'est l'une des questions que l'on posera dans un instant à nos informés. Mais d'abord, 20h40, le rappel de l'info, c'est avec Boris Allier.
La moitié des TGV en circulation, 4 TER sur 10 seulement, légère amélioration, mais le trafic reste fortement perturbé. Demain, au 21e jour de grève, la SNCF précise que les trains ouverts à la réservation jusqu'à dimanche sont tous garantis de circuler. Les transports également au ralenti en Ile-de-France. 5 lignes de métro restent fermées demain à Paris. Prudence en Charente-Maritime, Météo France maintient sa vigilance orange, risque d'inondation au bord de la Charente. Le deuil aujourd'hui au Burkina Faso après cette attaque dans le nord du pays. Plus de 200 individus lourdement armés qui ont ouvert le feu dans une commune près de la frontière malienne. Bilan 42 morts dont une majorité de femmes. Selon l'armée burkinabé, la riposte a permis de tuer 80 terroristes. Et puis à Hong Kong, pas de trêve de Noël pour les militants pro-démocratie. La chef de l'exécutif les accuse d'avoir gâché l'ambiance festive avec ces nouvelles émeutes. Les forces de l'ordre ont ressorti les gaz lacrymogènes après plusieurs semaines d'accalmie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Julien Lenglet.
Avec ce soir Christophe Gascard, Hélène Pilichowski et Bruno Cotterêts, le chef de l'État va-t-il tenir ou va-t-il lâcher lors de ses vœux aux Français le 31, des vœux qu'il prépare sans doute, il doit en avoir quand même une petite idée déjà dans la tête, au fort de Brégançon pour quelques jours. Bruno Cotterêts, quelle va être selon vous la teneur de son discours au chef de l'État? La fermeté, c'est une obligation pour pouvoir continuer à réformer sur la fin du quinquennat? C'est ce que sous-entendait Hélène Pilichowski tout à l'heure.
Oui, on n'imagine pas du tout le chef de l'État nous annoncer qu'il va temporiser ou qu'il va renoncer. Ça, c'est pas du tout ce à quoi il faut s'attendre. Moi, je m'attends plutôt à avoir un chef de l'État qui va essayer de faire le lien entre ses vœux du 31 décembre de l'an dernier lorsque Emmanuel Macron est au plus bas, il a été percuté de plein fouet par la crise des Gilets jaunes, et le 31 décembre, il y a un an, il nous explique qu'il va engager un grand débat national, qu'il repart à l'écoute des Français, qu'il change de méthodologie, et donc j'imagine qu'Emmanuel Macron, il lui tiendra à cœur dans quelques jours de nous expliquer en quoi ce projet de réforme des retraites, la manière dont il a été conduit, la concertation avec les partenaires sociaux, s'est inspiré de l'acte 2 ou de cette nouvelle méthodologie. Là où ça va être un tout petit peu compliqué, c'est qu'il y a eu effectivement, entre les 31 décembre de l'an dernier et le 31 décembre qui arrive, il y a eu le grand débat national. Mais ce grand débat national, où il est aujourd'hui dans les propositions, dans personne ne va vraiment se servir du grand débat national pour dire le projet de réforme, il s'inspire directement de ce qu'on a entendu des Français, de leurs aspirations, de leurs inquiétudes. Et de ce point de vue-là, j'attends, moi avec impatience, je dirais que le chef de l'État soit fasse le lien ou alors fasse l'impasse. Et là, ça sera un peu plus problématique, me semble-t-il.
Vous voyez, Christophe Gascard, Bruno Cotterêts attend avec impatience ce discours du 31
mais
décembre.
Moi aussi, mais du chef de l'État.
Non, mais en plus, ce discours-là, il est important.
Autant mais dans le contexte actuel, je trouve qu'il est plus important que d'habitude.
Bien évidemment. En plus, on a tous connu les deux grands discours qu'on avait avant. C'était le 14 juillet, qui n'existe plus aujourd'hui, et le 31 décembre. C'est très important, ce 31 décembre, parce qu'il permet aussi, effectivement, d'avoir une voix tutélaire qui parle à tout le monde, qui permet de faire le bilan, comme je disais tout à l'heure, et surtout de donner les grands axes. Et Bruno, il a raison, effectivement. Je pense que le chef de l'État peut sortir de son chapeau et une éventuelle, alors ça va pas du tout plaire aux syndicalistes, mais concertation, un nouveau mode de fonctionnement pour essayer de voir comment on peut essayer de gérer cette crise. Néanmoins, entre le 31, il y a une date qui est importante, c'est le 7 janvier. Ça laisse quand même encore une semaine, parce que le Matignon a annoncé que les partenaires sociaux seraient reçus le 7 janvier.
Le 7 janvier, oui.
Ça laisse quand même encore une semaine. Donc,
après le 31 décembre.
Donc voilà.
Qui peut annoncer quelque chose, c'est ça que vous sous-entendez?
Non, ce que je veux dire, c'est que, avec le chef de l'État, et celui-ci particulièrement, il est extrêmement attentif à tout ce qui est tempo, tout ce qui est, ce qu'on l'a dit souvent, maître des horloges. Et donc, je pense que la date du 7 janvier n'a pas été choisie par hasard.
C'est deux jours avant le 9 janvier, la nouvelle grande manifestation annoncée par l'intersyndicale.
Et ce qui est souvent le cas d'ailleurs à chaque fois. On l'a vu, les dernières grandes manifestations, ils étaient reçus souvent deux jours avant. La vraie difficulté aujourd'hui pour le gouvernement, c'est de parler pas forcément à la CGT et FO, parce qu'ils savent qu'ils sont campés sur leur position et ils ne sont pas ce que l'on appelle des réformateurs. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est effectivement de voir avec la CFDT, de voir avec les autres syndicats, l'UNSA, qui sont eux en plus majoritaires dans certaines branches, de voir s'ils ont moyen d'accommoder cette question de pénibilité ou de gestion de fin de carrière. Et ça leur permettrait effectivement d'avoir un effet de levier, parce que si demain il y a plus d'unité syndicale, je pense qu'à un moment ou un autre, on va sortir de ce.
Il n'y en a jamais eu d'unité syndicale.
Non, mais en tout cas.
La dernière manifestation, il y avait une forme d'unité syndicale quand même.
Non, c'est pas parce que Laurent Berger est allé faire un tour à la manifestation, il est resté 20 minutes. Non, mais c'est vrai, il voulait marquer sa différence.
Oui, il est allé faire un tour,
ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas cherché à se montrer bras dessus avec Philippe Martinez quand même. Lequel d'ailleurs a précisé qu'il n'était pas invité le 7 janvier.
Et parce qu'on a des élections aussi syndicales qui vont avoir lieu. Absolument. Et que chacun campe effectivement sur ses positions, c'est très important. En fait, la vraie difficulté aujourd'hui, et moi je le ressens comme ça, c'est qu'il faut trouver une porte de sortie où chacun ne va pas perdre la face. Oui. Il ne faut pas que les syndicats perdent la face, il ne faut pas que le gouvernement perde la face.
Donc, il n'y aura ni gagnant ni perdant, dit le Premier ministre. Mais
ce qui est très important...
Et ce n'est pas facile, c'est un exercice d'équilibriste et là, on peut dire vraiment de diplomatie.
Parce que pour Emmanuel Macron, vraiment, son dilemme, c'est simple, si vous voulez, si on veut résumer, c'est simple, mais à la fois très dur. C'est simple, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il ne lâche pas, on l'a déjà dit, ça, parce que justement, on a reproché au président précédent de toujours caler, de ne rien faire et d'avoir un pays très en retard dans sa modernisation. Donc lui, il a dit, moi, je ne calerai pas. Donc là, on l'attend, c'est très fort la pression qui est sur lui. Et en même temps, il ne veut pas qu'on lui reproche après d'être passé en force. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vainqueur sans avoir balayé le dialogue social sans être passé outre ce que lui demandaient les syndicats les plus durs. Et c'est ça qui est très compliqué.
Bruno Cotterêts.
C'est ça, effectivement, la grande difficulté. Quand on regarde de près les enquêtes d'opinion sur l'image d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce que les Français renvoient comme image d'Emmanuel Macron, on a aujourd'hui deux camps fondamentalement qui s'opposent. On a effectivement ceux qui voient Emmanuel Macron comme le réformateur audacieux qui réussit là où les autres ont échoué. Mais ce camp n'est pas majoritaire dans l'opinion. Et on a un autre camp qui est Emmanuel Macron, celui qui ne s'est pas écouté, celui qui ne comprend pas les Français, celui qui effectivement réforme de manière verticale sans se préoccuper des conséquences sur la vie des Français. On voit qu'entre les deux, il y a eu une époque, il y avait un peu de nuance entre les deux, où certains disaient il faut lui laisser sa chance, on doute, mais il faut lui laisser sa chance parce qu'il est jeune, parce qu'il est nouveau, parce qu'il a une nouvelle approche. Et puis là, progressivement, eh bien, ça s'est maintenant recroquevillé sur ces deux camps qui sont très 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 opposés. Effectivement, Hélène a raison, le dilemme pour Emmanuel Macron, arriver à montrer à ceux qui le soutiennent comme le réformateur qu'il va au bout de ce projet de réforme, et puis ne pas donner en même temps, ne pas alimenter la machine, à percevoir Emmanuel Macron comme celui qui ne comprend pas les Français et passe indépendamment ou contre ce que les Français pensent. Donc il y a effectivement là quelque chose qui est très délicat et on voit que se joue progressivement quand même le prisme avec lequel Emmanuel Macron va se présenter à la présidentielle de 2022.
Oula, déjà.
Ah oui, c'est de ça dont il est question fondamentalement, parce qu'évidemment progressivement tous les acteurs politiques vont commencer à se préparer. Nous arrivons déjà dans l'année 2020 et progressivement tous les acteurs politiques vont intégrer ce calendrier.
Vous voulez dire que les politiques ont des arrière-pensées électorales, c'est ça ?
Ce ne sont pas des arrière-pensées, ce sont des pensées présentes en permanence.
Christophe, vous vouliez réagir.
Pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, c'est assez clair, on l'entend pas mal en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire également pour Marine Le Pen. Ce qui m'inquiète le plus quand même, et Bruno le soulignait, c'est cette frange de la population qui se radicalise. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, et moi je le ressens parce que je suis à la fois journaliste à France Télévisions, moi je suis aussi sur le terrain, donc je les rencontre ces grévistes, et j'ai l'impression que quoi que l'on puisse dire, pour certains, attention je ne globalise jamais, mais qu'il y a deux camps qui se font face et qu'on est en train finalement d'avoir une France qui se scinde en deux et qui est très compliquée,
qui ne s'écoute plus
et qui est campée sur ses positions. Ceux qui n'aiment pas Macron aujourd'hui n'aiment pas Macron, et quoi qu'ils fassent, même s'il leur donne le meilleur discours et qu'il va dans leur sens, j'ai ce sentiment qu'il n'arrivera pas à les satisfaire. Et à l'inverse, et il y a une sorte de majorité, en tout cas c'est ce que peut penser l'exécutif, majorité silencieuse, qui soutient effectivement le gouvernement et qui le pousse à continuer ses réformes. Et c'est aussi la raison pour laquelle le chef de l'État continue, et je pense qu'il a d'une certaine façon raison, parce que son avenir politique se joue aussi sur ses succès qu'il va engager.
Bon, eh bien, on va voir dans la dernière partie comment sortir de cette crise, de cette grève des transports, notamment, qui continue contre la réforme des retraites. 22e jour de grève demain, et puis on en a parlé, cette journée de manifestation le 9 janvier. Mais avant cela, d'autres rendez-vous, notamment politiques, pour le chef de l'État, ses vœux du 31 décembre. Mais d'abord l'info, 20h50, le rappel, on retrouve Boris Allier.
Les avions ne seront peut-être pas cloués au sol le 3 janvier prochain. 4 syndicats de stewards et d'hôtesses annoncent la suspension de leur mouvement. Ils assurent avoir obtenu des concessions du gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. Le syndicat de pilotes SNPL, lui, attend des engagements écrits pour lever son préavis. Le pape François face à ses fidèles. Le souverain pontife a prononcé son traditionnel discours Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre au Vatican. Solidarité avec les victimes de la guerre au Moyen-Orient, pensée pour les nations d'Amérique du Sud plongée dans la crise. Le pape François a également adressé un message d'espoir envers les migrants. Autre allocution, comme chaque année à Noël, celle de la reine d'Angleterre, Elisabeth II le reconnaît. 2019 a été une année semée d'embûches. Elle appelle les Britanniques à surmonter leurs divisions. La souveraine qui salue également le sens du devoir des jeunes générations face à la crise climatique. Et puis pour les fans de basket, le 25 décembre, c'est aussi synonyme de nuit blanche face à la télévision. En guise de cadeau, la NBA a programmé 5 affiches incontournables avec en ce moment ce duel entre deux des meilleures équipes du championnat américain, Philadelphie face à Milwaukee.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Julien Lenglet.
Nos informés de Noël, Christophe Gascard, Hélène Pilichowski, Bruno Cotrez. Pour cette dernière partie des informés, il n'y aura ni gagnant ni perdant, a dit le Premier ministre. C'était déjà il y a quelque temps, hein, puisque c'était lors de son discours devant le Conseil économique, social et environnemental pour présenter sa réforme des retraites. Est-ce que c'est vraiment possible ça ? Est-ce qu'il peut y avoir à l'arrivée finalement que des gagnants, Bruno Cotrez ?
Ça semble très difficile quand même, une réforme où on n'aurait que des gagnants. On aimerait tous y croire, évidemment, bien sûr. Mais on se doute bien quand même qu'il y aura sans aucun doute des catégories qui vont gagner, des catégories qui vont un peu perdre. On imagine mal que si on peut rester à périmètre constant de notre richesse nationale consacrée à l'effort pour payer les pensions, forcément, si on est dans un périmètre qui, lui, ne va pas bouger, budgétaire qui ne va pas bouger, il y aura sans aucun doute certains qui vont gagner un peu et certains qui vont perdre un peu, beaucoup, ça on ne sait pas bien. Et c'est justement l'une des difficultés de communication dans laquelle se retrouve l'exécutif aujourd'hui, l'impossible communication précise par rapport aux demandes. Il y a des simulateurs qui ont été mis en place, qui mettent en scène des cas extrêmement généraux, mais vous savez, là on touche à un problème, mais qui est lui alors vraiment très 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 classique et récurrent de communication de l'action publique. L'action publique, elle s'intéresse peu à chaque Français individuellement dans sa situation particulière à lui. Elle s'intéresse à des raisonnements macroéconomiques, mais là tous les Français disent, mais pour moi personnellement, pour mes enfants, qu'est-ce que ça va changer? On voit que pour le moment ça patine quand même un peu dans la communication gouvernementale sur la précision des conséquences budgétaires de ces réformes, des conséquences en espèces sonnantes et trébuchantes sur chacun des Français. C'est très difficile de communiquer là-dessus pour le moment.
C'est un peu malheureux, ce sentiment d'impréparation quand même. Ça fait 2 ans et demi quand même qu'ils discutent de cette réforme.
Je pense qu'on en est à peu près sûr. On en est à peu près sûr aujourd'hui. Le gouvernement n'avait pas mesuré l'ampleur et la difficulté de cette réforme une fois qu'il s'agissait de l'appliquer à la France entière, bien évidemment.
Sincèrement,
parce que tout le monde s'est polarisé au départ. L'idée, c'était quoi ? C'était supprimer les régimes spéciaux et supprimer ceux qui étaient effectivement favorables à leurs adhérents. Évidemment, tous les Français étaient d'accord en disant oh ben bien sûr, on va couper certaines retraites, et ça leur fera du bien depuis le temps qu'ils sont privilégiés, que ça coûte de l'argent, vous savez, comme sont les Français, c'est ça. Et à partir du moment où ils ont vu que la réforme concernait tout le monde et que certains risquaient effectivement peut-être aussi d'y perdre, et puis qu'il y avait une impréparation, comme vous dites, il n'y avait aucune réponse, il y a eu des tas de fake news qui n'ont pas cessé pendant toute cette période, là, depuis un mois, qui étaient absolument terrifiant, du genre, vous allez perdre 30% de retraite. Il faut dire que les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont profité de cette retraite pour faire peur aux gens. Quand on dit qu'ils sont débordés par leur base, c'est peut-être vrai dans certains cas, mais pas forcément, parce que la CGT, c'est un des responsables qui l'a expliqué, elle a édité 2,5 millions de tracts résumant ou d'informations sur la retraite, où vous pouvez les voir sur le site de la CGT, on leur explique que tout le monde va perdre un tiers de sa retraite.
Mais ce sont tracts, Hélène Pilichowski, ils ne sont pas des...
Mais les gens qui croient en la bonne foi de la CGT, surtout quand il s'agit de faire peur, tout le monde a peur très vite. On a plus facilement peur que l'on a confiance, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on vous dit, c'est sûr, on est là pour vous délivrer du mal, vous allez perdre 30% de votre retraite, il est normal que tout le monde ait peur et veuille manifester.
Et peut-être demander aussi des éclaircissements au gouvernement, c'est
oui,
légitime ça.
Oui, mais il n'y croit plus.
Christophe Gascard.
Je pense que c'est surtout la bataille de l'opinion qu'on va vivre dans les jours qui viennent. Ça, c'est super important parce que on est quand même, on va battre, là, c'est sûr, on bat la durée de grève de 1995. On a des informations qui parviennent de chaque camp. On a appris hier que, par exemple, à la RATP, il y avait 300 à 400% d'augmentation des arrêts maladie en période de grève. Donc ça veut dire aussi que ces informations-là, elles sortent pas par hasard. C'est aussi pour que l'opinion dise, attendez, moi j'arrive pas à aller au boulot le matin, je me lève à 4 heures.
La guerre d'opinion, c'est dans les deux camps.
La guerre d'opinion, c'est très très important. Ouais. Elle est dans les deux camps. C'est aussi pour ça que chacun se regarde et chacun s'observe aussi et qu'elle va durer. Et on va voir. Mais moi j'ai le sentiment quand même que, même si effectivement tous les Français sont... C'est très dur une grève et quand on le vit, c'est très compliqué pour les Français qui se lèvent chaque matin très tôt, et on le sent à Paris
peut-être moins en province encore que, mais à Paris, on le sent, ils sont fatigués. Ça, ça va jouer et c'est certain. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est si les syndicalistes ne font pas forcément les bonnes concessions aussi face à un gouvernement qui ouvre la porte ou à l'inverse, eh bien...
Et dans l'opinion aussi, Bruno Cotterêts, il peut y avoir aucun gagnant, aucun perdant, ou il peut y avoir que des perdants aussi éventuellement.
Pour le moment, on voit qu'il y a différentes couches de réaction de l'opinion publique. La fin des régimes spéciaux, on peut dire d'une certaine manière que l'opinion valide, presque donnant raison 25 ans après à Alain Juppé par rapport à 95. Par contre, sur le contenu de la réforme, l'idée qu'elle serait forcément juste, qu'elle incarnerait forcément la justice sociale et qu'il n'y aurait pas de perdant là. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de doutes. L'âge pivot est lui très très très, je ne sais pas si on peut dire rejeté, mais en tout cas il a introduit beaucoup de points d'interrogation et beaucoup de doutes chez les Français. Et lorsqu'on leur demande d'attribuer la responsabilité à qui est responsable de la situation, pour le moment, c'est plutôt en majorité relative du côté de l'exécutif et après 50-50, les deux à la fois ou les syndicats. Donc il y a effectivement une intense bataille de l'opinion qui va se jouer, car nous arrivons effectivement, ça a été dit, à un point de durée de ce conflit qui commence à poser de problèmes sérieux d'organisation, en particulier en région parisienne.
Et un point de non-retour finalement, où l'abandon d'un camp ou d'un autre devient quasiment maintenant impossible vu la durée du conflit. Merci à tous les trois. Merci Bruno Cotterêts, en direct par téléphone, politologue, chercheur au CEVIPOF, professeur à Sciences Po Paris. Merci Hélène Pilichowski, journaliste politique. Et merci à Christophe
merci
Gascard,
à
journaliste à France Télévisions,
merci,
d'avoir été
Noël.
Nos informés de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et les informés, eh bien, c'est terminé. Mais rendez-vous demain, 20h, 21h sur France Info.